Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sous ce salon perdu, puisque tel est le nom de ce Magic Mirror qui nous accueille pour cette table ronde. Autour, alors je crois que la thématique c'est auteur atypique et roman atypique ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, on va faire découvrir des personnalités et des univers, et vous allez voir des choses extrêmement variées, différentes et franchement très très étonnantes. Voilà, il y a de très très beaux univers. Peut-être un peu déroutant pour certains, on va le voir. On va commencer avec Sabrina Calvo parce que il y a une semaine, vous receviez le Grand Prix de l'Imaginaire pour votre dernier roman qui s'appelle Toxoplasma, qui n'est pas là. Alors, bon, c'est pas moi qui ai fait la sélection. c'est pourtant de ce roman-là dont on va parler un petit peu aussi. Toxoplasma, c'est un roman qui se déroule à Montréal, mais pas forcément le Montréal tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et voilà, dans un univers quand même très particulier, parce qu'on ne sait pas trop où on, quand on est, plus exactement, où on est, ça on le voit à peu près. Mais il y a beaucoup d'éléments où on se dit, est-ce qu'on est dans un monde post-apocalyptique? Est-ce qu'on est dans un monde parallèle? On découvre un peu tous ces éléments. Et cette ville de Montréal que vous revisitez d'une certaine manière dans ce roman.
Oui, bonjour, ça va bien? Il fait chaud, hein? C'est mon running gag en ce moment. Alors, Montréal, écoutez, moi, ça fait 4 ans que j'habite en Montréal. Et je n'ai pas revisité Montréal, je visite Montréal avec mes propres yeux, en fait. Et du coup, j'ai pris part à ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire quand je suis arrivé il y a 4 ans, j'avais l'impression d'être toujours en 1986. C'était très intéressant, j'avais l'impression pour la première fois de ma vie d'arriver dans un endroit et de revoir les années 80 telles que je les avais vécues. J'avais donc 12 ans en 86 et c'était assez étonnant. Et moi j'habite donc Petite Patrie qui est donc au bout de la Petite Patrie. Et en fait, pas loin de là, il y avait un vidéoclub, il y avait le dernier vidéoclub de Montréal qui a fermé ses portes il y a 2 ans même. Très triste. Et ça m'a frappé parce que j'ai trouvé plein de magasins de VHS autour de chez moi. J'ai trouvé plein d'endroits très étranges. Il y avait des vieux coiffeurs, des vieux posters de vieilles coiffures très étranges, de boucles blondes et tout. On aurait dit Farrah Fawcett partout, quoi. C'était très étonnant, quoi. J'ai découvert l'existence du mot Keten. Voilà, qui est assez difficile à traduire en français, qui serait un mélange de kitsch, de ringard et en même temps de très futuriste. C'est très beau. Et du coup, je me suis passionné pour ce quartier et pour le mode de ce que je voyais autour de moi. Et voilà, j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Et pour moi, cette intemporalité-là, elle est au cœur de mon rapport avec Montréal. Et je l'ai vu d'ailleurs mourir, cette intemporalité, puisque très récemment, enfin depuis on va dire un an et demi, le quartier entier se fait gentrifier comme beaucoup, beaucoup d'endroits dans Montréal. On remplace des petites maisons par des condos qui se ressemblent tous. Et du coup, on a l'arrivée d'une certaine population de la tech, notamment de l'intelligence artificielle, qui envahit en fait les hangars et les friches qui sont pas loin et qui commencent à pulluler partout dans le quartier. Et on leur fait évidemment des restaurants et des bars pour eux, quoi. Et donc c'est des faux bars thaïlandais, des faux bars machin, c'est que du fou, voilà. Et du coup j'ai vu mourir les années 80 2 fois. C'est assez bouleversant finalement quand on aime les années 80 comme c'est mon cas. Pas du tout par nostalgie, hein, mais voilà. Et du coup c'était très triste et je me suis dit bon bah voilà, il fallait peut-être que je parte. Mais en tout cas dans l'intervalle de ces 3-4 ans là, j'ai découvert une ville formidable et cette temporalité là, je l'ai trouvée aussi dans le langage, dans le français qui est pas le même que qui est une langue à part entière, qui est très très belle, très poétique. Je me suis pris de passion pour la poésie québécoise et du coup j'ai eu l'impression d'être dans ma bulle et c'est vrai que maintenant quand j'y réfléchis, j'ai passé 4 ans là-bas dans mon quartier, dans ma maison, dans mon appart. Et j'ai l'impression qu'il se passait 6 mois, quoi, parce que ben, Montréal, c'est très lent, quoi. Il se passe pas grand-chose, on regarde passer les écureuils. C'est vrai.
Ça tombe bien que vous parliez d'écureuils, parce que le roman commence par un meurtre abominable.
De raton laveur.
Celui d'un raton laveur, voilà. Oui. Décapité en plein centre de Montréal.
Décapité en plein centre de Montréal.
Et installé sur une balançoire.
Alors, techniquement, il n'a pas été décapité en plein centre de Montréal. Il a été décapité dans le parc La Fontaine, qui est donc à Hochelaga, qui est un peu plus loin, c'est pas du tout une Petite Patrie. Il n'y a pas vraiment de centre à Montréal. On peut dire que Downtown, finalement, est une sorte de centre, mais ce n'est pas vraiment le centre, quoi. C'est genre l'endroit où les gens vont acheter des fringues et manger des hamburgers, quoi. Mais c'est pas vraiment le centre. Ce qu'il y a un centre à Montréal, c'est compliqué à dire, quoi. Les Français, s'il est là-bas, vous direz que c'est le plateau, mais moi, j'y crois pas trop. Mais du coup, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'un jour, j'étais en train de faire la cuisine un matin, et j'entends la radio, un meurtre horrible qui est arrivé dans ce bar, et donc un raton laveur décapité, dépecé, et placé dans une petite balançoire pour enfants en plastique, là, vous savez, dans les petites nacelles comme ça. Là. Et j'avais trouvé ça vraiment horrible. Et je me suis dit, mais qui peut envisager de faire ça? C'est pas possible, surtout dans une ville où il y a autant d'animaux qu'à Montréal. Il y a tout, hein. Il y a des marmottes, des écureuils, il y a des ratons laveurs, qu'on appelle les moufettes. Enfin, non, pas les moufettes, non, les moufettes, c'est les skunks. C'est quoi? C'est les. En français, les putois. Alors c'est rigolo parce que le putois sent la weed. Et des fois, on se demande si c'est de la weed ou du putois. Enfin, c'est très très drôle. Et donc du coup voilà, ça a été le point de départ, et du coup je suis resté dans mon quartier. Moi, c'est mon appart, c'est je faisais ce que mon personnage principal fait dans ce bouquin, qui est de trouver les chats perdus, et donc j'ai fait ça. Donc c'est mon quotidien en fait. Et l'effondrement, donc le bouquin se passe entièrement à Montréal pendant la Commune de Montréal, qui est donc une commune anarchiste qui résiste à la pression d'une espèce de royauté néolibérale, enfin on sait pas trop ce que c'est, quoi. Et donc ils ont bloqué les ponts avec des milices anarchistes et ils empêchent les fachos de passer, d'entrer, et l'intérieur de Montréal continue à subsister entre une forme de résistance citoyenne, une vraie hipstérisation et des je m'en foutiste, quoi. Et peu à peu le truc s'effondre évidemment. Et l'effondrement que je décris, c'est l'effondrement que moi j'ai vu de l'intemporalité en fait de Montréal. Et c'est un futur proche, mais qui est après-demain ou hier, je sais pas, parce qu'il y a Trump, mais on sait pas trop. Il y a des murs qui ont été construits, il y a des guerres, mais enfin, c'est pas très clair en fait, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'être très clair là-dessus, quoi. Le DVD, le Blu-ray n'existe pas dans mon monde, alors qu'il y a Trump. Voilà. Il n'y a plus que des VHS.
Puisque votre héroïne principale travaille dans un vidéoclub.
Ouais, bien sûr. Enfin, ils sont en guerre contre Betamax et Betamax gagne, alors que dans la réalité, Betamax a perdu. Voilà, mais c'est des trucs comme ça, enfin ça n'a aucun sens en fait, mais moi j'aime bien, on voit pas pourquoi il y aurait du sens après tout.
Ben, c'est typiquement la table ronde pour ça, de toute façon. Caroline Georges, on est ravis de vous accueillir, vous faites partie de la délégation canadienne qui nous a rejoint sur ce salon, et plus particulièrement québécoise. Oui. Voilà, la transition est trouvée avec le livre de Sabrina, puisque... Vous êtes canadienne, mais vous ne nous emmenez pas au Canada.
Non, pas avec souhaitant, du moins. Non.
Vous nous emmenez dans l'édifice.
Oui.
Et plus particulièrement, attendez que je me souvienne, au 804 du 5969e étage de l'édifice.
Voilà.
Le bouquin s'appelle « Sous béton ». Je ne vous conseille pas de le lire un soir de déprime. Non. Parce que c'est, voilà, c'est absolument terrifiant. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a pris ?
Oui, qu'est-ce qui m'a pris? En fait, le livre a germé au tournant du millénaire, au moment où, dans les médias, on s'est mis à être très catastrophique. On s'est mis à parler de l'extinction accélérée des espèces, du réchauffement climatique, évidemment, de l'épuisement des ressources, des super-méga-virus, enfin, la surpopulation et tout ça en bloc. Enfin, chez nous, je ne sais pas, chez vous. J'imagine partout sur Terre, on s'est mis à avoir une vision assez... apocalyptique de ce qui s'en vient. Et avec le type d'imaginaire que moi j'ai eu envie de me projeter à l'autre, j'ai envie de tirer tous ces fils et de me projeter à l'autre bout, à l'extrémité de toutes ces catastrophes, pour observer ce qui pourrait advenir de l'être, à l'extrémité de l'humanité. Et en même temps, ce qu'il faut quand même que je dise, c'est qu'à cette époque-là, j'avais une passion pour deux évolutionnistes du début du 20e siècle, qui s'intéresse au devenir de l'être. Sri Aurobindo, en Inde, qui a fait rien de moins que la synthèse des yogas et qui a proposé une vision très proactive, très énergétique du devenir humain qui devrait... En fait, pour lui, on est des êtres de transition et on est appelés à transcender notre condition biologique avec ce qu'il nomme le supramental. Et bon, il y avait à travers son œuvre, qui est assez complexe, une vision d'un ailleurs énergétique qui dépasse largement ce qu'on connaît actuellement dans notre expérience du corps et tout. Et en même temps, il y a Teilhard de Chardin, ici en France, qui écrivait autour de la noosphère, de cette vision, en fait, le père d'Internet, qui voyait la coalescence éventuelle des consciences à travers une dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle sphère, en fait, qu'il nomme la noosphère, et qui allait conduire à terme à la christogénèse, c'est-à-dire un point d'illumination, l'oméga, où tous les êtres humains atteindront l'illumination, et du coup, nous trouverons notre forme unifiée comme espèce espèce en tant qu'organisme unifié et en étant tout à fait individualisé aussi. Enfin, il y a une vision très complexe du devenir humain qui, encore là, nous fait sortir de ce qu'on connaît de notre expérience humaine. Et donc, j'étais très, très inspirée par ça. Et à la fois, j'avais devant moi ce mur apocalyptique et j'ai eu envie d'explorer les possibles du devenir humain après ce qu'on pourrait nommer l'apocalypse ou quelque chose comme ça.
On a donc l'édifice dont on comprend que c'est un bâtiment absolument gigantesque, même si on n'en mesure pas franchement les dimensions.
On ne sait pas combien il y a d'étages.
On sait juste qu'il n'y a pas d'horizon parce que tout est dans le brouillard à l'extérieur. On a un lien vers l'extérieur qui se résume à un écran d'un mètre carré, je crois à peu près, si je me souviens bien.
Oui.
Et on a régulièrement des gens qui se font expulser de cet édifice pour diverses raisons.
Oui.
Et nous, on va suivre une... je ne sais même pas si je dois dire une famille.
Oui,
comme
bah,
je
disons,
ne sais pas si je dois dire un appartement.
Oui. Enfin, on suit un enfant, le père et la mère, et sans lien d'appartenance manifeste.
Ils n'ont pas de nom.
Ils n'ont pas de nom.
Ils sont dans un endroit où on a l'impression qu'il n'y a pas de meubles.
Il y a à peu près pas de meubles, non. Et il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, c'est très important. Ils sont vraiment enfermés à l'intérieur d'une cellule de béton totale. Voilà, oui.
Et on ne sait pas ce qu'ils font là.
En fait, ils s'oppressent mutuellement. C'est une expérience d'oppression absolue, continue, jusqu'au point de rupture. C'était l'intérêt du livre. C'était de faire en sorte... le point de vue du narrateur, c'est on suit son expérience de transformation au moment où il arrive au point de rupture.
Voilà, qui est l'enfant, hein, le narrateur.
Oui, voilà.
Et qu'on va suivre donc, tout au long de cette histoire. On va revenir à un peu plus de sérénité, de calme, de beauté, avec Léon Henry. On va parler d'Hildegarde.
Est-ce que je peux tout de suite pirater
Je t'en prie.
Parce que avant de passer à la sérénité, moi je viens de terminer de lire Sous béton cette nuit. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi Toxoplasma. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous lire juste une phrase de Sous béton.
Je t'en prie. Ça vous va.
Et je vais d'abord dire juste un mot de Sous béton. Je peux dire un mot de Sous béton?
Non, mais vas-y.
Juste un mot. Non, moi, je suis pas super d'accord sur le fait qu'il faut pas le lire quand on est déprimé. Parce qu'effectivement, c'est pas super rigolo, mais en même temps, la vie est pas très rigolote. Et c'est une expérience de lecture que j'ai trouvée super intéressante parce que ça commence par quelque chose d'extrêmement incarné, extrêmement matériel et physique. Et en fait, il y a assez rapidement, on se rend compte que ça dit des choses très intelligente. Et du coup, c'est à la fois une expérience physique, comme ça, et très désarmante, et en même temps, une expérience de pensée physique. Voilà, donc c'est... Et je vais vous donner un exemple, dans cette belle et longue phrase. Ça me semblait insensé, tous ces efforts, tous ces êtres, ces milliards de milliards de constructions détruites, reconstruites, transformées, éradiquées, réinventées, pour aboutir jusqu'à moi. Moi qui demeurais petit, pétrifié, silencieux entre les murs immobiles, lisses, indestructible du béton total. Avec des majuscules à béton.
Béton total, qui est une des expressions qui revient dans le livre. Alors parlons d'Hildegarde quand même. Hildegarde, c'est Hildegarde von Bingen. Le nom parle peut-être à certains d'entre vous. Mystique du 11e ou 12e siècle.
12e.
12e qui va nous emmener du côté de la Rhénanie. Mayence et Cologne, hein, grosso modo. Sauf que, quand on voit la couverture, on s'attend à rencontrer Hildegarde. Et puis, on part sur... Alors, non, pas complètement autre chose, ça serait exagéré de dire ça, parce que finalement, tout a un lien avec Hildegarde dans ce livre, mais ce n'est pas la vie d'Hildegarde. Quel est un peu le but, Léo, de ce roman?
Faire un grand livre, un gros livre sérieux. Que voilà, gros livre, et puis sérieux, Hildegarde.
Ça change de Sabrina avec son grand n'importe quoi. On retrouve un peu de cadre.
Exactement. En fait, c'était précisément ça. Mon objectif, c'était de faire l'anti-toxoplasma.
Parce que je dis ça d'autant plus que vous avez le même éditeur. Donc,
Et donc, oui, Hildegarde est là. Si, elle est là. Elle est là. Elle est au milieu. Elle est au milieu. Et je raconte la vie d'Hildegarde au milieu. Après, il y a d'autres choses. C'est autour d'Hildegarde. J'utilise Hildegarde pour aller visiter le XIIe siècle et l'aller visiter physiquement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'importe. Voilà. Non, c'est, ça ne veut rien dire ce que je raconte. je vais la faire mieux. Une des questions que je me... En fait, un des problèmes que me posait ce projet, c'était de savoir dans quelle mesure c'est possible d'écrire sur un temps aussi lointain. Et donc, le biais que j'ai trouvé, c'est que j'ai cherché ce qui était semblable, plutôt que de m'intéresser à ce qui était différent. Et du coup, j'ai établi qu'était semblable très largement, c'est notre relation physique au monde. Notre relation physique au monde n'a pas évolué. Voilà, un coup sur la tête fait aussi mal au XIIe siècle que maintenant. Et au-delà, en fait, notre relation physique est au-delà. Et donc, du coup, c'était de repartir de la matérialité et de l'expérience, de l'expérience qu'on a du monde pour aller là-bas. Et donc, du coup, c'est un XIIe siècle incarné dans la mesure où c'est toujours des gens qui parlent et ils parlent de leur point de vue et ils parlent de...
Est-ce un roman de fantasy ?
Oui.
Pourquoi ?
Il y a des dragons.
Non mais c'est il y a une idée que moi je trouve, je vais le dire, absolument fabuleuse. C'est comment faire du mysticisme un archétype de fantasy. Est-ce que ça te va comme définition ?
Mais oui, mais enfin, mysticisme, ouais, ou faire du merveilleux chrétien, une des branches de la fantasy, mais ça a toujours été le cas en fait. C'est juste, c'est un fait relativement récent dans l'histoire de l'Occident qu'on ait décidé que le merveilleux chrétien faisait plus partie du corpus de la fantasy. Voilà. Après, c'est une vie de saint aussi, une vie de sainte. Et donc, du coup, je me suis renseigné pour savoir comment est-ce qu'on écrit une bonne vie de saint pour avoir l'imprimatur. Et donc, et le premier article de Écrivez une bonne vie de saint, c'est le registre littéraire de la vie de saint et le merveilleux. Donc, le réalisme de la vie de saint et voilà, la littérature générale de la géographie, c'est de la fantasy. Donc oui, c'est de la fantasy, oui, oui.
Sabrina Calvo. Ah ouais, on a bien fait de venir. Qui est alors, j'ai essayé de pas me tromper sur les prénoms parce que j'ai tendance en fin de festival à les mélanger. Qui est Nikki ?
Il y a un bouquin ?
Ouais.
Bah c'est Nikki, c'est une meuf qui bosse dans un vidéoclub et qui cherche des chats perdus et qui a fui la France après une espèce d'expérience traumatisante dans une espèce de secte. Enfin, on saura vraiment jamais si c'est ses parents qui l'y ont foutu ou si c'est eu un truc genre. Espèce de religion un peu révélée, protestante, évangélique, machin. On sait pas trop, en fait, elle a fui pour ça, quoi. Et elle se retrouve à faire cette enquête sur ce pauvre raton laveur mort, là. Elle sait pas trop pourquoi, en fait, parce qu'elle est témoin de cet effondrement là, de la commune. Elle essaie de trouver sa place, elle essaie de trouver du sens par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à elle. Pourquoi elle se tire pas, pourquoi elle reste là. Elle essaie de trouver du sens et elle est amoureuse d'une nana qui visiblement qui est probablement amoureuse d'elle aussi, mais qui a des problèmes beaucoup plus profonds parce que elle est politiquement active dans une espèce de sous-internet, parce qu'internet s'est écroulé en fait, a été complètement colonisé par le commerce et sert uniquement aux corporations à s'échanger des secrets ou à s'échanger des choses, et que finalement les pirates ont créé une espèce de sous-internet qui vient bouffer l'internet corporate en fait. Et Kim, qui est donc la meuf de Nikki, est une de ces coureuses, ce qu'on appelle les coureuses des bois au Québec. Et elle, c'est une coureuse de net, quoi. Les runners, comme on les appelle en Angleterre, les cyber-runners, quoi, en cyberpunk. Et elle est là parce qu'elle tente en fait de faire survivre la commune en volant des secrets aux corporations qui sont toujours là et qui probablement sabotent la commune de l'intérieur, quoi. Donc elle est et donc voilà, leur chemin va se séparer et se retrouver à un moment donné. Mais Nikki, elle vit dans mon appart. Je dirais pas que c'est moi parce que j'écris pas sur moi, j'écris sur mes émotions, mais oui, c'est ma projection, toute mon imperfection en fait de femme et toute mon imperfection vis-à-vis du monde, et aussi peut-être ce que je ressentais quand j'étais au Québec, hein, c'est-à-dire cette espèce d'exil volontaire. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis capable de mettre du sens? C'est difficile quand on est dans un autre pays, même qui parle la même langue et tout, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je remets en place un réseau quand on n'a pas l'amour, quand on n'a pas la relation d'amour, tout semble tellement fragile. Les amis, même j'ai des amis très proches maintenant là-bas et tout, mais même les amis, ils ont leur vie. C'est compliqué de se trouver une place, c'est compliqué de se trouver une existence, quoi. C'est voilà, surtout quand on est en transition, en plus, quoi.
Alors c'est ça qui est, moi j'ai trouvé très intéressant dans Toxoplasma, c'est que il y a une espèce de mélange entre une certaine légèreté et puis une tonalité finalement derrière qui est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde. Et ce que tu viens de dire va dans ce sens-là, je trouve. Il y a un côté, voilà. Il y a cette enquête qui ressemble pas à grand-chose et qui pourtant petit à petit révèle des indices assez troublants. Il y a ces aspects différents justement de ce presque complotisme virtuel à travers ce réseau parallèle que l'on suit à travers des conversations et avec un graphisme là encore très années 80. Il y a des références permanentes au cinéma d'horreur dont Nikki est absolument fan et elle est capable de conseiller n'importe quel client pour lui trouver le film idéal qui va lui donner les émotions qu'il attend. Et derrière ça, il y a ce monde en déréliction, il y a des inquiétudes qu'on ressent à la fois sur un plan personnel, sur un plan plus général, de savoir dans quel sens le monde va. C'est ça aussi qui fait de ce roman quelque chose d'assez atypique, finalement.
Moi, j'ai l'impression que, tout ce que je fais, c'est comme ça. Enfin, moi, je me considère comme une humoriste, hein, que les choses soient claires. Hein. Je ne me considère absolument pas comme autre chose que quelqu'un qui fait des blagues, en fait. Hein. Et j'ai toujours trouvé les choses... J'ai voulu écrire des choses drôles et voilà. Mais c'est pas parce que c'est drôle que ça peut pas être sérieux, en fait. Hein. C'est juste une manière de voir les choses. C'est l'humour, le comique, c'est juste une manière de voir le réel, quoi, pour pas en pleurer. Parce que moi, franchement, si je me mettais vraiment à dire ce que j'ai, je pense que moi, je n'arrive pas à gérer le réel. J'ai du mal. Des fois, c'est très, très violent. Je suis obligé d'avoir un filtre de pas de dédramatisation, mais en tout cas de dire en fait ça va, c'est une vaste blague, quoi, tu vois, parce que sinon c'est une catastrophe, parce que la manière dont les gens se prennent au sérieux des choses, une bêtise abyssale, quoi. On est envahi par le bullshit, tout est bullshit, notre réalité s'écroule, tout s'écroule, et les gens continuent à prendre les choses au sérieux. Moi ça me fait halluciner. Et donc du coup, moi, je bien sûr que je prends les choses au sérieux, je prends ma santé au sérieux, je prends l'amour au sérieux, je prends l'amour des gens au sérieux, mais comment prendre au sérieux les choses aujourd'hui quand elles sont aussi proches de l'effondrement en permanence? Donc bien sûr que moi, je me marre pas dans le réel, j'essaie d'être activiste, j'essaie d'être militante sur plein de choses, mais à travers mes bouquins, moi, j'estime que la seule chose que je dois faire, si j'ai une chose à faire, c'est de créer du délire, mais profond, très 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 profond, très très. Quand je parle de n'importe quoi, j'assume le n'importe quoi, moi, depuis toujours, quoi. J'assume le non-sens, moi. Je veux pas faire sens, parce que si je veux rendre compte de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense pas qu'il faille s'attaquer au sens. Je pense qu'il faut s'attaquer au non-sens, quoi. Tout est absurde, là. On marche sur la tête, quoi. Et à tous les niveaux, quoi. Et les gens ne se rendent même pas compte à quel point c'est absurde, ce qu'on vit, quoi. Et donc, je fais ça depuis le début, hein, depuis toujours. Au début, c'était plus franchement drôle et pas très sérieux. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à devenir de plus en plus grave, le sujet et tout, quoi. Mais par contre, c'est de plus en plus délirant, quoi.
Ouais. Caroline Georges, alors, ça tombe bien, on parle d'absurde. Il y a presque quelque chose d'absurde aussi dans Sous-Béton, parce qu'on est dans cet univers extrêmement oppressant. Et du coup, on a presque cette réaction, nous, de dire prenons-le avec un recul certain, puisque nous avons la chance de pouvoir le faire. On est dans cet univers carcéral, je vois vraiment pas d'autre mot pour l'employer, où tout est identique, où plus rien n'a d'identité, où l'enfant se retrouve avec un père qui s'abrutit, c'est le terme, hein, qui est utilisé, puisqu'il se dope aux abrutissants, et une mère qui, elle, est au fin fond du désespoir. Et cet enfant-là, il refuse la résignation.
Je pense qu'en fait, il plonge au fond de la résignation. Il veut traverser ça. Il ne veut pas refuser. Non, je pense qu'il y a une forme de... Je pense que il cherche à comprendre et comprend comment dire, il comprend l'absolu dévastation du monde dans lequel il est. Il comprend l'absolue violence et il cherche à comprendre le sens de l'existence. C'est la base de son expérience de conscience. Il cherche à comprendre pourquoi, en fait. C'est la question.
C'est le mot super important du livre.
Oui, c'est le mot. Oui, pourquoi tout ça? Pourquoi cette absurdité, justement? Pourquoi? C'est la question qui va ouvrir sa nouvelle, enfin, qui va créer pour lui une nouvelle perspective.
Oui. Petit à petit, il essaye de repousser un peu les limites physiques d'abord, c'est-à-dire qu'il essaye de sortir un petit peu de cet appartement dans lequel il se trouve, d'aller voir ailleurs, d'expérimenter ce monde extérieur. Il aimerait bien même aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire dehors, mais il sait que dehors, c'est la mort, ou en tout cas... quasiment. On est dans une quête. Finalement, on est presque là aussi, comme je disais avec l'autre talent, on est presque dans un univers de fantasy d'une certaine manière.
On n'est certainement pas très loin du mysticisme. On est près d'une quête spirituelle, de toute évidence, qui n'est pas nommée comme telle parce qu'il y a une absence évidente de religion dans son univers. Mais il y a une conscience. Il y a, au fond de cet être, cette espèce d'antimatière de l'être qu'est la conscience, cette espèce d'expérience fondamentale de l'être qu'est la conscience, et qui cherche à prendre place. Et c'est à travers cette éclosion de la conscience, ce déploiement de la conscience à travers son expérience, qu'il va trouver qu'il va s'aventurer en fait au-delà de son expérience de la matière et du corps. Oui.
Il recherche donc des réponses qui sont impossibles à trouver puisque personne ne lui répond. Quand il aborde les choses, ses parents, entre guillemets, mettent un terme tout de suite au questionnement.
Oui, l'oppression est absolue, totale et continue. Donc, il ne peut pas ni se poser de questions, ni quoi que ce soit. Il n'a plus rien. Il peut simplement faire des siestes. C'est tout ce qu'il peut
faire.
Est-ce
que justement, il n'y a pas aussi cette présence un peu... Alors, il n'utilise pas le mot, en tout cas, je n'ai pas le souvenir, mais il utilise le mot sommeil, mais il y a aussi le mot rêve qui est un petit peu derrière. C'est un peu sa seule voie d'évasion, finalement.
Oui, c'est un lieu où il rencontre, il fait une rencontre qui est marquante pour lui, oui. Donc oui, encore là, on est dans ces dimensions que peut explorer la conscience, oui. Et qui est une dimension qui ne peut être explorée que par la conscience, en fait, oui.
Parce que finalement, c'est le seul moyen de sortir, c'est de sortir de soi.
Oui.
C'est assez... Troublant.
En fait, c'est de sortir de ce que, oui, de du carcan biologique, du carcan de l'espèce, carrément.
Moi, j'ai eu l'impression, en voyant l'édifice et en voyant un peu cet univers se dessiner petit à petit, d'avoir un corps et d'avoir le fonctionnement des bactéries à l'intérieur. Cherchez-moi aussi des réponses finalement en tant que lecteur parce que c'est vrai qu'on en est là aussi. Et voilà, c'est un peu la métaphore qui m'est venue.
Ok, oui, pourquoi pas. Oui.
Moi ça me va, c'est que je dis pas trop d'âneries.
Non, mais je veux dire, nous sommes à différentes échelles d'un point de vue extraterrestre, nous sommes bien sûr des microbes, des bactéries. Alors pourquoi pas, oui. Oui.
Léo Henry, comment avez-vous fait la connaissance d'Hildegard von Bingen?
Est-ce que je peux parler d'autre chose d'abord ou... Ah, super. Non, parce que j'étais en écoutant les deux précédentes intervenantes, je me disais qu'il y a un truc qui c'est super intéressant avec ces deux livres à mettre en rapport. Et c'est bien parce que je les ai lus tous les deux, en fait. Et je me suis dit, on n'est pas nombreux à pouvoir faire ces rapports encore ici. Mais c'est qu'il y a un vrai... les univers sont radicalement différents. Vraiment, ils sont presque à l'opposé du spectre l'un de l'autre sur cette notion de jeu en tant que jeu mécanique, de possibilité mécanique, de que les engrenages ne tournent pas parfaitement. C'est-à-dire que dans Sous-Béton, tout est précisément bloqué, tout est précisément arrêté, alors que la Montréal de Toxoplasma est complètement... Et au contraire, complètement... tout bouge tout le temps, en fait. C'est un livre extrêmement, extrêmement mobile, en fait, et on n'arrête pas de se déplacer, extrêmement ludique. Et ce qui est super intéressant, c'est que les questions centrales sont à peu près les mêmes, et sont ultra contemporaines, en fait. C'est à chaque fois ces deux bouquins qui parlent exactement de comment on vit maintenant, et avec aussi cette question de comment est-ce qu'on fait les choses ensemble dans des univers qui sont... qu'on a du mal à appréhender et avec deux choix radicalement différents de proposer l'univers. Un univers absolument mobile et donc perpétuellement déconcertant et auquel il faut tout le temps s'adapter et un univers qui est tellement immobile qu'en fait on ne peut pas, enfin on n'a aucune possibilité de...
Voilà. Avec le point commun pour le lecteur que dans les deux cas, on ne sait absolument pas où on va. Ce qui est aussi assez troublant et parfois assez inquiétant parce que rien n'est... possiblement anticipable.
Ouais, mais en même temps, ça me paraît assez aussi un bon constat sur ce qu'on est en train de vivre.
Alors, Hildegard.
Oui, j'ai découvert Hildegard au début des années 90 dans Indiana Jones et la dernière croisade, le point and click pour PC. Dans le passage dans les catacombes sous Venise, il fallait jouer sur un clavier en os un air de Hildegard de Bingen. La partition était indéchiffrable et le clavier en os, il fallait cliquer au pixel près sur le bon crâne. C'était impossible. Mais vraiment, hein. Mais si. Ah ouais, c'était ma révélation.
Ça valait vraiment le coup que tu répondes à la question. Quand
gravé
même.
Au fer rouge dans mon cerveau. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, on ne s'est plus jamais quitté avec moi.
Comment je rebondis là-dessus, moi? Ouais, faut quand même que je pose la question. Es-tu croyant? Ou est-ce que c'est... Voilà, c'est... Qu'est-ce qui t'a vraiment...
Mais cette question n'est pas du tout pertinente, quoi. Mais en même temps...
Ah non,
en même
je
temps,
ne sais pas.
Non, là, alors, je ne vais pas y répondre. Mais... alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, je reformule ta question pour pouvoir y répondre. C'est
alors, je vais peut-être la poser autrement. Quand on se rend compte, quand on regarde... Alors, pas seulement la vie d'Hildegarde, mais tout ce qu'elle a fait, parce que c'est absolument incroyable, que c'est un personnage extraordinaire. Vraiment, c'est, elle a touché à énormément de domaines. Tu viens de parler de la musique, mais elle a inventé une langue. Elle a créé énormément, énormément de choses qui parfois même se sont limitées à son existence. Elle en était pratiquement la seule usagère, si on peut dire ça ainsi. Est-ce que c'est aussi ça qui t'a
ça,
fasciné ?
Ça, c'est un super bon point. Alors, effectivement, elle a fait énormément de choses. Ça s'est attesté historiquement. Après, on lui prête énormément de choses qui sont pas, qui coïncident pas nécessairement avec ce qu'elle a fait. Et par contre, ça, ça me paraît vachement intéressant parce qu'effectivement, si on regarde, par exemple, la collection de CD Harmonia Mundi, tous les enregistrements de musique occidentale, il y a une compositrice sur l'histoire de la musique occidentale chez Harmonia Mundi et c'est la première. Et donc, du coup, c'est assez étonnant aussi qu'elle soit la seule. Et là, maintenant que tu poses la question, je me demande si ce n'est pas une des fonctions d'Hildegarde de Bingen d'être représentante de toutes les minorités. Donc, c'est la femme compositrice, et puis ça va être là, visionnaire, et puis ça va être là. C'est comme ça, on en a une, c'est bon, le quota est rempli. Et après, on peut mettre tous les autres derrière.
Tu parlais de vie des saints tout à l'heure. Ça s'accompagne, et ça, c'est dès les premières pages. Du récit de leur existence, avec les miracles qui leur sont associés, avec leur charisme. On est déjà dans le mythe, finalement, de ces personnages, même si, quand on le lit, on nous raconte ça comme un récit vivant, présent, etc. Voilà, il y a aussi tout ce travail-là qui est finalement de donner, je pense même à Trithème qui apparaît à un moment, qui est un penseur qui a vécu plusieurs siècles après Hildegarde, mais qui l'a redécouverte. Et comme par hasard, lui aussi, parce qu'il va toucher à l'œuvre d'Hildegarde, il va devenir un sorcier. Il va être considéré comme un sorcier.
Non, je crois que ça n'a rien à voir avec Hildegarde qu'il soit considéré comme un sorcier. Je pense que c'était un sorcier, donc ça c'est... Ça. Et sa relation à Hildegarde, c'est essentiellement qu'il l'a déterré et qu'il en a pris des morceaux et il a distribué des morceaux à ses meilleurs amis. Et le mythe, ça c'est intéressant parce que c'en est pas en fait. C'est cette matière qui m'a intéressé. Peut-être ça peut répondre à la question de la fantaisie, c'est que le registre de la géographie c'est le merveilleux et la façon de percevoir le monde au XIIe siècle c'est la fantaisie. Donc, c'est la fantaisie, c'est un raccourci, mais disons que la façon de comprendre le monde. Déjà, ne distinguait pas entre ce qui relevait de l'observation scientifique, comme on la conçoit maintenant, de la vision, en l'occurrence pour Hildegarde, la rêverie ou de la tradition. Et en plus de ça, la façon de faire sens du monde nécessitait le filtre de la façon dont on considérait le texte biblique à l'époque. Donc, comprendre le monde, c'est regarder le monde à travers une bibliothèque de fiction. Donc, à partir de là, moi, j'ai pas de... De quoi je n'ai pas, j'ai pas de vergogne
de chute.
À faire non c'est enfin bref j'ai la possibilité en fait voilà c'est ça qui m'intéresse c'est explorer cet endroit où la perception du réel passe nécessairement par la subjectivité des histoires partagées.
Je vais poser une dernière question à Sabrina puis ensuite on la laissera partir puisque je crois qu'il y a des questions de
Il est quelle heure?
Il est 40.
Moins 20 ?
Ouais.
Attends, moi je voulais juste pas le lire un passage d'Hildegarde qui me paraît être très sensible par rapport à ce que tu disais sur le sens et tout. C'est le début d'Apocalypse, la fin. Personne n'est pas mieux que moi que quiconque ne peut prédire quand la fin sera sur nous. Il est écrit dans l'Évangile que le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. L'Éternel seul connaît l'heure du jugement Et c'est un secret qu'il n'a confié à aucun de ses anges ni aucun de ses prophètes. Celui qui est éternité contemple l'histoire entière déroulée sous ses yeux, et chaque moment qui fait la trame du temps est pour lui aussi réel, aussi présent que celui qui le précède ou que celui qui le suit. Ce que je sais quant à moi, ce que je peux voir avec mes yeux mortels et concevoir dans mon esprit faillible, c'est que le jour arrive à son terme. Le soleil entame sa descente et ses rayons s'émoussent. Les ombres, en noircissant, se multiplient. Des poussières étincelantes dansent au-dessus de ma page et dessinent dans l'espace les raies obliques. Les raies obliques tirées de la fenêtre. Le soir vient, puis le crépuscule, puis la nuit. Sans rupture, inexorablement, les forces vitales se retirent. Les fleurs ferment leurs corolles, détournent leur face du ciel. Les animaux se pressent vers leurs abris. L'homme suspend son ouvrage, pose son outil, allume de maigres feux. Le soleil perd en chaleur, seul le ciel conserve un signe de lumière enfoui. Nuages d'or, de rouge et de violet. On lève la tête, on cherche un sens, le cœur se serre. Qu'espérer de la nuit qui arrive sinon un matin neuf, semblable au précédent ? Qui ignore que le jour à venir finira comme celui qui s'en va ? C'est à vêpres que l'homme suit le diable jusqu'au fleuve pour s'y noyer. Et quand la lumière décline, qu'il noue la corde à la poutre pour se prendre par le cou. Wow. Ça déboîte. Ça déboîte.
Merci Sabrina, parce qu'en plus ça permet de découvrir l'écriture de Léo. Et voilà, c'est, vous aurez un peu l'état d'esprit de ce livre qui est absolument passionnant et absolument déroutant également. Est-ce que tu veux que je te laisse partir ?
Ça dépend de la question.
Est-ce que tu veux que je te laisse partir ?
Non, vas-y, allez.
Je voulais peut-être revenir sur le précédent. Oui. Parce que je crois que dans ce livre-là, tu abordes des sujets là aussi. On parlait un peu du lien que tu avais avec Nikki, mais je crois qu'il y a aussi des liens, des aspects très personnels dans ce précédent roman. Est-ce que justement la littérature pour toi, c'est aussi une manière de pas forcément de militer d'ailleurs, on a bien compris ce que tu as dit tout à l'heure, mais voilà, de te raconter aussi d'une certaine manière.
Depuis toujours, moi je me raconte, mais je me raconte pas moi, je raconte ce que je traverse, et je raconte si on, et peut-être que ce que je traverse peut résonner chez les autres. Je pense qu'un écrivain ou une écrivaine parle de ce qu'elle connaît et de ce qu'il connaît, quoi. Et moi, ce que je connais le mieux, c'est moi, enfin, c'est ce que je vis, et j'essaie de faire sens de ça. Et donc, finalement, tous mes bouquins se nourrissent des émotions, de mon intimité, d'un moment présent, et sans parler de ma vie réelle, elle parle des choses qui me traversent pendant l'écriture d'un livre. Je n'ai pas un livre que j'écris depuis des années, par exemple. Moi, j'écris un livre au moment où je l'écris, au moment là où je suis. Voilà. Et quand j'ai fini de mon cycle, quand j'ai fini là, ben il est parti et puis il part avec. Quoi. J'ai pas d'écrit non fini parce que ça correspond à des choses que j'ai pas vécues ou que j'ai vécues il y a trop longtemps, qui sont plus moi en fait. Donc, en l'occurrence, Sous la colline parle de transgenre, de transidentité et tout ça. Moi, je pense que c'est des questions qui sont aujourd'hui universelles et beaucoup de gens se posent pas la question du genre encore. Et peut-être qu'il faut désincarcérer ça. Il faut. C'est un bouquin sur le béton aussi. C'est un bouquin sur le béton comme corps, le corps vu comme une espèce de coque de béton comme ça qu'on habite et dont il faut se défaire ou pas, ou qu'il faut liquéfier ou pas, quoi. Et j'ai toujours envisagé la littérature, enfin c'est un mot que moi je comprends pas vraiment, littérature, mais j'ai toujours envisagé en tout cas la création et en tout cas la mienne comme étant une forme de d'immanence en fait, quoi, et de sorte de, ce qui sort de moi je le transmute et je le, non c'est pour le monsieur là en fait, voilà. Et faudra penser à le prendre et donc du coup je vois pas trop en fait comment je pourrais faire l'économie de ça. Pour moi, c'est pas possible, en fait. Quoi. C'est pas comme ça que j'écris, quoi.
Est-ce qu'il y a David Calvo, l'écrivain, et Sabrina Calvo, l'être humain, ou est-ce que...
Non, c'est mon pseudo. C'est mon pseudo maintenant, David. Et c'est bizarre, parce que c'est la première fois que je le dis depuis 6 mois maintenant.
Je me permets de te poser la question. Tu avais tout à fait le droit de m'envoyer dans les cordes.
Ma mère m'appelle encore comme ça. Certaines personnes m'appellent encore comme ça. C'est un pseudo. J'en fais pas. Non, c'est la même personne. C'est pareil. Il n'y a pas de distinguo. Je vais changer mon nom sur les couves si jamais on fait des réimpressions, ce qui va peut-être être le cas là. Et du coup, non, pour moi, c'est la même personne. C'est juste qu'il y a des aspects comme ça. C'est les mêmes facettes de la même chose. Non, il y a pas de, je fais pas de distinguo, tout est continuité, quoi. Tout est fluide en fait, il y a pas de rupture, j'aime pas les ruptures. Pour moi la vie est continuité, quoi. Elle est pas, justement, elle est analogique, elle est pas discrète comme ça, elle est pas faite en petits bouts, quoi. Tout se vit, et la permanence de l'âme, enfin de l'âme, j'utilise le mot âme, mais la permanence de l'être, comme tu disais, quoi. Elle est peut-être là, quoi, j'en sais rien, peut-être. Je sais pas. C'est possible.
En tout cas, peu importe le prénom sur la couverture, ça reste un univers toujours aussi étonnant, délirant, déroutant. Mais voilà, moi j'avais le souvenir d'avoir lu un roman chez Bragelonne il y a quelques années maintenant,
Wonderful.
En arrière. Oui. Et ben, j'ai retrouvé vraiment le même délire et la même folie douce dans ce Toxoplasma. Voilà, je te laisse partir.
Oui, il va falloir que
j'y aille.
Oui. Ah ouais, bien sûr, vas-y, allez.
Je pirate encore, mais
vas-y.
Du coup, c'est difficile. C'est difficile de trouver des morceaux dans Toxoplasma aussi, parce que c'est vraiment un flux
très particulier
et continu. Mais je me souviens d'un morceau que j'ai adoré dans Colline. Donc si ça va, je lis un bout de Colline. Ça spoil pas vraiment, ouais. C'est à la fin, mais ça spoil pas. Nous, dans cet espace de bonheur, nous réunis, les deux versants d'une colline sacrée, enceinte, nous serons ceux qui parlent pour ceux qui ne parlent pas. Nous serons ceux qui feront marcher les cailloux, à travers nous les arbres et les feuilles, les oiseaux, le vent, la neige, les astres. À travers nous les montagnes, les lacs secrets, les dédales, à travers nous les nuages, les remous sur le sable, l'écume, à travers nous la lumière, les ténèbres, et les traits sur les murs d'une caverne pour faire parler le mammouth. À travers nous les fractales sur la peau d'une feuille, la chambre d'écho, les bulles, les gestes effacés. À travers nous les escaliers, les recoins, les léopards des neiges, à travers nous l'eau d'une rivière, les tréfonds d'un puits, à travers nous les notes de musique, le chant des créatures inconnues, l'impossible expression d'un pépiment, à travers nous la chanson, le souffle de l'horizon, le pas des ombres, les rubans dans le matin, les cotillons, le gaffeur sous nos doigts, à travers nous les taches, les erreurs et les ratures, à travers nous la maladresse, à travers nous le ridicule, à travers nous tout ce que nous ne savons pas dire, que nous devinons à travers nous, au travers de nous.
Merci beaucoup, Sabrina. Deux secondes, on arrive, on revient. Caroline, on va terminer encore. Je prends le même train, donc de toute façon, il va falloir qu'on arrête pas trop tard. Caroline, je parlais avec Stéphanie Nico tout à l'heure, parce que j'étais en train de réviser, vous voyez que j'ai le livre à la main, et je lui disais, c'est vraiment impressionnant, mais qu'est-ce que c'est noir ? Et Stéphanie me répond, et encore, t'as pas lu les autres. Alors, je voulais savoir pourquoi, j'ai eu l'occasion de discuter avec vous ces derniers jours, vous n'êtes pas quelqu'un qui engendre la mélancolie particulièrement, mais vous avez un regard... une écriture, en tout cas, et des sujets que vous abordez qui semblent extrêmement sombres.
En fait, non. Mon deuxième roman, Ataraxie, c'est une comédie. Un rire noir, peut-être. Mais non, je n'ai pas toujours le même ton d'un roman à l'autre. Et mon dernier roman de synthèse, qui est justement ici, c'est pas aussi non. Il y a une ouverture, il y a vraiment une ouverture. J'y traite de la composition du corps virtuel en abordant à la fois la décomposition du corps biologique, qui est peut-être un sujet, oui, qui est un peu plus noir, mais je m'intéresse à ce qu'on est en train... En fait, je m'intéresse à la transformation, comment nous transformons à travers différents types de possibles. Et le virtuel, dans mon dernier roman, c'est un de ces possibles-là.
Vous êtes artiste, je crois que sur votre site, la forme exacte, c'est artiste
interdisciplinaire.
Oui, voilà, oui. C'est ça. Oui. Comment est-ce que justement, voilà, vous nourrissez vos différentes activités artistiques ? Est-ce qu'elles sont, pour reprendre l'exemple de Sous-Béton, est-ce qu'elles sont extrêmement cloisonnées ? Ou au contraire, circulent et est-ce qu'elles inspirent les unes les autres ?
Non, c'est un parcours qui est très organique. J'ai d'abord été danseuse, j'ai enseigné la danse contemporaine et par force, j'ai eu un accident très grave et j'ai été immobilisée. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'explorer le corps et sa fixité. Donc, je me suis mise à la photographie. Et la photographie m'a donné envie d'étudier l'histoire de l'art. Et c'est pendant mes études en histoire de l'art que j'ai eu envie de commencer à écrire de la fiction en observant des œuvres d'art. Je voyais toutes sortes de choses et je me suis mise à écrire de la fiction. Et donc, j'ai poursuivi mon œuvre photographique. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la quête du sublime. Ce qui traverse tout ce que je fais, c'est un processus de sublimation ou comment dégager un corps subtil d'un corps grossier. Et ça prend toutes sortes de formes. Et voilà, et donc ça traverse toutes les disciplines. Je m'intéresse au corps subtil virtuel à travers la photographie, l'avatar, la dimension, la réalité virtuelle. Je m'intéresse au corps subtil d'un personnage littéraire. Et tout ça se rejoint. Donc je peux écrire un roman, par exemple, mon deuxième roman, Ataraxie, mettant en scène une femme obsédée par son corps, par son apparence. Et quand j'ai terminé ce livre-là, j'avais en tête l'expression « femme-image ». Et je me demandais si je pouvais faire vraiment générer une femme-image, une femme qui n'existe que dans une dimension virtuelle. Et donc, je me suis mise à explorer les métavers. J'ai créé un avatar dans Second Life. J'ai exploré ce que ça voulait dire, créer une femme idéale complètement virtuelle. Et ça a généré la matière de mon dernier roman de synthèse. Donc, mes explorations visuelles génèrent des sujets qui vont être au centre de mes romans. Et mes romans vont me pousser à explorer de manière photographique ou vidéographique des thèmes. Ouais.
Alors, Sous Béton est le premier de vos romans à être publié par une maison d'édition française.
En fait, non. Mon premier roman, La Nuit de l'Hermaphrodite, a été publié ici dans une petite maison qui était pas si petite, qui était les éditions R, qui sont disparues depuis. Et oui, c'est en fait.
Mais là, c'est un bon pied. J'imagine que ça va peut-être pouvoir inspirer d'autres maisons qui viendront vers vous pour qu'on puisse découvrir les autres romans que vous proposez. Et qu'on découvre voilà, cet univers qui est très original et très intéressant. On s'attache à ce personnage de l'enfant. On a peur pour lui, franchement, parce qu'on ne voit pas comment il peut sortir de là. Il y a une impasse complète. Vous l'avez quitté facilement, ce personnage ?
Oui.
Non, mais vous êtes sans cœur.
Non, mais c'est parce que j'avais pas. Quand j'ai su que j'avais ce livre, parce que là, les livres germent en moi et je peux pas. Il faut que je les écrive, j'ai pas le choix. Parce que sinon, il reste là. Et pour moi, plonger dans cet univers de béton-là, me coller à ce sujet très grave, c'était pas quelque chose dont j'avais envie, a priori. Mais une fois arrivé au bout de l'expérience de l'enfant, en sachant ce qu'il attend et ce qu'il advient de lui, oui, j'étais contente d'avoir terminé le livre, bien sûr.
Léo Henry, un peu la même question. Comment est-ce qu'on sort de l'expérience de l'écriture d'un roman comme Hildegarde ?
Ravi.
Rasséréné ?
Non, juste soulagé d'avoir fini. Ouais, parce que voilà, c'était un gros livre sérieux. J'ai mis un temps déraisonnable à le faire. voilà, non, mais pour de vrai, donc oui, j'ai été très content d'avoir terminé. Ouais. Très, très content.
Et maintenant, donc, complètement parti sur complètement autre chose, un univers totalement différent.
Ouais, mais en fait, alors j'ai terminé il y a un moment, donc je suis déjà parti depuis un petit moment vers d'autres choses. Puis je fais toujours d'autres choses.
Parce que la pensée qui avait été publiée avant était déjà très différent.
Oui, c'est ça. Très différent, c'est ça. C'est une bonne définition. Tout est très différent. Après, je rebondis sur ce qu'a dit Caroline, mais il y a aussi un. Ouais, je trouve ça super intéressant cette idée du corps subtil et de. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est totalement étranger. Du coup. Mais par contre, ça explique aussi un peu le. Enfin, j'ai l'impression de comprendre un peu le livre, parce que moi, je crois que ça m'a. Enfin, je ne sais pas. Et effectivement, c'est une des grosses questions que pose aussi cette idée de vision et d'accès au transcendant de Hildegarde. C'est que, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est au contraire le corps pas subtil. Enfin, et parce que je pense que c'est ça qu'on a en commun. Enfin, j'ai l'impression. Mais effectivement aussi, et je comprends qu'on abandonne l'enfant avec soulagement. Ouais, moi, ça m'a fait ça aussi. C'est un livre assez optimiste, Sous Béton, quand même.
Ah, bonne question. Ça nous fera des débats pour plus tard. Malheureusement, on va être obligé d'arrêter là parce que l'heure qui nous est impartie est terminée. Mais voilà, on va essayer de vous faire découvrir trois univers très particuliers, très originaux à travers ces différents romans. Et vous pouvez également élargir au précédent livre des trois auteurs qui étaient présents avec nous. Sabrina Calvo, Caroline Georges et Léo Henry, qu'on va remercier pour leur présence, leur disponibilité, leur gentillesse, leur humour également. Et puis, voilà, il y a peut-être encore un tout petit peu de temps pour aller les voir sous la bulle si vous le pouvez. Et puis moi je vais vous remercier tous encore de votre présence, de votre fidélité, et puis je vous dis à l'année prochaine.